Les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale sont une période mal connue de l'histoire contemporaine. Tandis qu'en Europe centrale, les mouvements forcés de population et le déplacement des frontières redessinent la carte politique de l'Europe centrale, les armées nationales qui se reconstituent au lendemain de la guerre participent au maintien de la cohésion nationale et de la sécurité des États. Au même moment, la montée au pouvoir des communistes, sortis vainqueurs du conflit mondial, joue en faveur de la logique des deux blocs qui s'impose progressivement et pour plusieurs décennies comme le nouvel ordre géopolitique de l'Europe. Paul Lenormand est un jeune historien doctorant à l'Institut d'études politiques de Paris et au CEFRES à Prague. Son travail de recherche porte sur la création de l'armée tchécoslovaque entre 1945 et 1950. Au micro de Paul Bauer, il raconte les premières années de cette nouvelle armée, son rôle de ciment du tchécoslovaquisme et son orientation vers le socialisme d'État.
Chapitre de l'histoire. Alors, travailler sur la reconstruction de l'armée tchécoslovaque en 1945, c'est-à-dire travailler sur un contexte difficile, est-ce que la Tchécoslovaquie est pacifiée après 1945, après l'armistice ?
Alors, non, justement. La Tchécoslovaquie affronte plusieurs problèmes après 1945. Alors, d'abord, vous le savez, il y a la question des minorités nationales en Tchécoslovaquie qui joue un rôle crucial. Alors, le souci pour les Tchécoslovaques, qui sont tous d'accord là-dessus, en tout cas pour le gouvernement de Front National qui a été constitué en 1945, c'est d'expulser un maximum d'Allemands et, si possible, également de Hongrois. Alors, non seulement on veut expulser une partie de la population, mais en plus il y a des tensions de plus en plus fortes au fil de l'après-guerre entre les Tchèques et les Slovaques, donc les deux populations les plus importantes de la Tchécoslovaquie à ce moment-là. Et donc tout l'enjeu, c'est d'éviter une scission du pays en deux, voire une intervention étrangère de la part, par exemple, de l'Union soviétique. Alors, parmi les autres difficultés que rencontrent les Tchécoslovaques, c'est justement cette question de frontières, puisqu'on expulse des populations qui, pour la plupart, sont situées dans les zones frontalières. Et il s'agit de conserver l'État tchécoslovaque tel qu'il était avant 1938, avant les accords de Munich. Alors, le gouvernement tchécoslovaque en exil a déjà dû céder la Ruthénie subcarpatique à l'Union soviétique. Elle aimerait bien conserver le reste du territoire de façon intégrale.
Et donc l'armée tchécoslovaque, à ce moment-là, a un rôle de consolidateur ou sécuritaire, évidemment, pour la Tchécoslovaquie d'après 1945.
Alors oui, effectivement, l'armée tchécoslovaque consolide la souveraineté nationale. Alors elle est un outil symbolique d'une certaine manière, puisqu'elle montre aux grands alliés, États-Unis, URSS notamment, que les Tchécoslovaques se sont battus pour leur liberté, qu'à partir des éléments qui constituaient l'armée tchécoslovaque en exil, ils ont rétabli donc leur souveraineté sur leur territoire. Et puis cette armée, en plus, elle sert à alimenter une partie des unités de sécurité spéciales qui plus tard formeront les unités du ministère de la sécurité intérieure, connues pour leur association au Parti communiste tchécoslovaque. Et en plus, l'armée tchécoslovaque contribue à l'expulsion des Allemands et à la sécurisation des frontières. Il y a un certain nombre de projets qui sont émis par justement l'état-major tchécoslovaque pour changer les frontières et pour renforcer le territoire tchécoslovaque, notamment en annexant certains territoires de Silésie, de Basse-Autriche, pour élargir un petit peu la Tchécoslovaquie, qui a cette forme de concombre, évidemment, et qui est fragile, puisqu'il y a des populations jugées hostiles au nord comme au sud.
Une question sur cette armée tchécoslovaque, elle est composée de quelles personnes ?
Alors, ce qui est très intéressant dans le cas de l'armée tchécoslovaque, c'est que contrairement à certaines armées qui ont aussi connu une occupation, comme l'armée française, une bonne partie des membres de cette armée tchécoslovaque sont pas forcément des hommes complètement nouveaux, mais des hommes qui étaient des marginaux dans l'armée d'avant-guerre. C'était des hommes plutôt jeunes et qui n'étaient pas au grand poste de responsabilité. En gros, la plupart de l'élite de l'état-major tchécoslovaque avant la guerre a disparu. Alors, fait de résistance. Un certain nombre de généraux ont été fusillés, emprisonnés par les Allemands. D'autres personnalités militaires se sont compromises pour, un peu comme le maréchal Pétain, épargner les souffrances dans le protectorat, par exemple. D'autres personnalités se sont compromises dans l'État slovaque, hein, vous le savez, cet État qui s'est constitué en mars 1939 de façon autonome par rapport à l'ancienne Tchécoslovaquie. Et donc, en 1945, l'armée tchécoslovaque bénéficie en réalité de cadres assez jeunes qui ont combattu à l'ouest d'abord, puis ensuite à l'est, aux côtés des soviétiques, des britanniques, bref, qui ont combattu pour justement la libération du territoire tchécoslovaque. Donc ce sont des éléments assez hétérogènes. En plus, il faut ajouter qu'on ne peut pas se débarrasser de tous ces anciens militaires qui faisaient partie de l'État slovaque. Et donc il faut les intégrer, alors que pendant la guerre, ils ont combattu contre la Pologne, puis contre l'URSS, et ils se sont révoltés au cours de l'insurrection nationale slovaque en août 1944, et ils ont regagné le droit de faire partie, si vous voulez, de la nation tchécoslovaque. Mais malgré tout, leur fiabilité reste douteuse, ils sont assez anticommunistes, ils sont proches du parti populiste slovaque, de l'ancien parti populiste slovaque, catholique, conservateur, assez réactionnaire.
Alors vous travaillez sur la période 1945-1950, ça veut dire que vous prenez en compte la montée au pouvoir et la prise du pouvoir des communistes en 1948. Comment est-ce que ça se passe au sein de l'armée tchécoslovaque, qui est l'un des maillons de cette prise de pouvoir ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la vraie rupture, c'est pas forcément 1948, c'est 1945. Parce qu'en 1945, le Front National, hein, qui est fortement marqué par la présence des communistes, mais dont le ministère de la Défense n'est pas confié à un communiste en titre, donc le général Ludwig Svoboda, hein, qui est réputé pour sa proximité avec les communistes, mais qui malgré tout n'est pas un communiste, ce ministère va chercher à défendre, ce gouvernement et son ministère de la Défense vont chercher à défendre l'idée d'une armée politisée, c'est-à-dire d'une armée démocratique et populaire. Donc une armée qui serait l'émanation du peuple tchécoslovaque, qui ne pourrait pas connaître de dérives fascisantes ou de dérives antidémocratiques. Et donc évidemment, les communistes vont jouer un rôle de premier plan dans cette politisation, puisqu'ils vont placer au poste de contrôle, justement en arguant de cette nécessité de d'épurer, d'éliminer les éléments qui sont suspectés de ne pas accepter la démocratie dans sa nouvelle forme, une démocratie plus sociale, plus tournée vers l'URSS. Et ils vont donc occuper notamment les postes stratégiques du contre-espionnage militaire et de la formation des officiers, hein, ce qui permet évidemment de former des officiers qui soient davantage acquis aux idées nouvelles, disons, et puis d'éliminer à travers un certain nombre de complots les officiers qui sont jugés hostiles au Parti communiste.
Une dernière question, quel est pour vous l'intérêt de travailler sur l'armée tchécoslovaque dans cette période de l'après-guerre ?
L'intérêt, en fait, il est multiple, hein, puisque ça permet de travailler à la fois sur la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur la collaboration, puisqu'il y a des épurations qui ont lieu à la fin de la guerre, sur la phase un peu mal connue, finalement, de l'après-guerre. Hein, souvent, on l'assimile à une transition rapide, mais finalement, les choses se font d'une manière un peu plus progressive, notamment en Tchécoslovaquie. C'est un cas plus intéressant, peut-être, que d'autres cas où les choses sont assez brutales. Et puis ça permet de travailler sur l'entrée en guerre froide. Comment on rentre dans la guerre froide, et notamment dans une armée, puisque une guerre froide, ça suppose peut-être de se battre, on ne sait pas quand, mais peut-être de se battre. Et alors, est-ce qu'on va se battre avec ses anciens alliés britanniques, américains, français ? La question se pose évidemment pour ces militaires, sachant qu'il y en a qui partent à l'ouest, et donc il y a des émigrés, qu'il peut y avoir des renseignements qui circulent. Donc il y a toute une nébuleuse, hein, qui se construit et qui va se figer justement à partir des années 50. Les choses ne sont pas complètement jouées.